Alors Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes, pour cette occasion que nous avons, Seigneur, de sonder tes Écritures et d'y recevoir, Seigneur, la nourriture dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Que celle-ci trouve un cœur assoiffé, un cœur affamé, que celle-ci trouve une terre qui a été travaillée, afin, Seigneur, qu'elle produise en nous ce pourquoi elle a été proclamée et ce pourquoi tu l'as préparée de toute éternité pour nous. Aujourd'hui. Alors, bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis l'entendement de tous et chacun, et qu'en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Donc, psaume 121, je lis pour vous le psaume au complet, et par la suite, je vais relire le verset 5 qui est notre méditation pour aujourd'hui. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et je relis le verset 5 pour vous. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. La thématique de la semaine, si besoin est, je vous la répète, mon secours est assuré, ou un secours assuré. Tout au long de ce psaume, David veut rappeler au peuple d'Israël, à ses lecteurs, à son auditoire d'aujourd'hui, bien des siècles plus tard, qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre secours est assuré par Dieu. Quelles que soient les circonstances, les situations que nous pouvons traverser, Dieu veille sur nous. Et aujourd'hui, on reprend un terme qui a été utilisé dans le verset précédent, le verbe « garder » en français, qui en hébreu est le terme « shamar ». Donc, je vous l'ai déjà épelé hier, mais pour ceux qui n'étaient pas là, c'est « shamar »,« shamar », « shamar ». Et hier, on a vu l'aspect de « garder » dans le sens de « observer » ou de veiller sur une chose. Donc, garder son regard sur une chose. Hier, on disait que peu importe les circonstances, les situations, Dieu est tout le temps en train de regarder, de surveiller, d'observer ce que nous traversons et ce que nous faisons. Aujourd'hui, le sens qu'on va donner à garder, puisqu'on peut le traduire par plusieurs termes, aujourd'hui, le synonyme va être préserver. Donc, Dieu nous préserve. Quand il dit « l'Éternel est celui qui te garde », on pourrait le traduire, on pourrait le reproduire dans un langage plus usuel en disant « l'Éternel est celui qui te préserve ». Il te permet de subsister, de rester en vie. Il te permet de surpasser ou de dépasser l'adversité. Mais voici ce qui est important de noter par rapport à « garder » ici. Il dit « il est celui qui te garde ». Il est celui qui te garde. Ça veut donc dire qu'il n'y en a aucun autre qui le fait. Il est le seul à nous garder. Il est le seul qui peut nous garder. La parole de Dieu nous dit que Dieu est tout puissant. Et dans sa toute puissance, il utilise celle-ci pour nous préserver, pour nous garder. Il n'y en a pas un autre qui peut nous garder. Peu importe où on regarderait à droite et à gauche, peu importe les autres dieux qu'on pourrait nous suggérer, il n'y a qu'un seul et vrai Dieu, c'est le terme Yéhovah, qui veut dire le seul véritable Dieu. Donc, aucun autre ne peut te garder. Est-ce que ce n'est pas une grâce de savoir que le seul qui est capable de te garder est effectivement en train de te garder? Hier, on disait qu'il ne sommeille ni ne dort. Ça veut dire que même lorsque toi, tu es assoupi, même lorsque le temps se met à passer, en dépit de toute chose, en dépit du temps qui s'allonge, Dieu reste fidèle à sa tâche. Dieu ne se lasse pas. Dieu ne se relâche pas dans le fait de te garder et de te préserver. Donc, il n'y en a pas un autre qui peut le faire. Quand on dit « l'Éternel est celui qui te garde », on est aussi en train de dire que Dieu a l'exclusivité absolue de cette garde. Il ne veut la partager avec personne d'autre. Et c'est là le drame dans lequel plusieurs tombent, dans le compromis qu'on peut vouloir tenter de faire avec Dieu. Dieu ne fera jamais de compromis par rapport à sa place. Ce que Dieu veut de ta vie, c'est 100%. Ce pourquoi il a donné sa vie, c'est le 100% de ton existence. Le diable, lui, voudrait peut-être se contenter de 1%. Il pourrait négocier avec toi en disant, regarde, donne à Dieu 99%, mais garde-moi 1%. Parce qu'il sait que Dieu ne voudra jamais partager quoi que ce soit avec le diable. Donc Dieu ne partage ni sa gloire, ni sa possession, ni sa créature. Si tu appartiens à Dieu, tu appartiens à Dieu à 100%. Et s'il te garde, il te garde donc à 100% et ne voudra nullement, aucunement partager son exclusivité par rapport à la garde qu'il t'offre. La protection qu'il te donne, il est le seul. Il ne partage pas cette responsabilité. Vous savez, quand on partage des tâches, quand on fait des travaux en équipe, ceux qui ont fait des travaux en équipe à l'école, vous savez que ça peut être pénible parfois. Parce que vous avez tout le temps une personne qui travaille moins bien, voire moins fortement dans l'équipe. Et les choses ne se passent jamais comme on voudrait. Je suis quelqu'un qui suis attaché aux mots. Et quand je travaillais en équipe avec d'autres étudiants, ça m'agaçait de savoir que les mots qu'ils allaient utiliser n'étaient pas ceux que je croyais appropriés. Donc très souvent, je voulais me garder pour moi tout ce qui était la rédaction du travail, voire même j'ai souvent négocié avec le prof en disant « Regarde, même si ça prend 30 pages, je vais les faire moi-même parce que je préfère faire 30 pages tout seul que d'avoir à partager avec 4 ou 5 personnes avec qui je ne serais pas d'accord sur comment ils mènent leur travail. » C'est toujours désagréable d'avoir à partager une tâche parce qu'il y a toujours quelqu'un qui le fait un peu moins bien ou qui s'y donne un peu moins. Ici, on est assuré que celui qui veille sur nous veille à 100%, ne se lasse point, ne se relâche point et qu'il est le seul responsable de notre sécurité et de notre vivant ou de ce que nous avons encore à vivre. Donc, il est celui qui te garde, pas un autre que lui ne le peut. Il a l'exclusivité absolue de cette garde. Et quand on dit « il est celui qui te garde », ça veut donc dire que toi-même, tu ne peux pas te garder. Toi-même, tu ne peux pas te garder. Certains d'entre nous, on pense « ah oui, je me préserve moi-même, je suis capable de faire les choses par moi-même », à un tel point où il semblerait que certains n'ont pas vraiment besoin de Dieu. Paul va dire « voilà ce que je fais, ce n'est pas ce que je voudrais faire ». Et ce que je ne veux pas faire, voilà que si je l'ai fait en fait. Tu es en train de dire que malgré tous ses efforts, il n'arrive pas par lui-même à se préserver dans la sainteté, dans la sanctification. Et ça lui prend constamment un retour à Dieu, constamment un retour à la dépendance de Dieu. Tu ne peux pas ajouter une journée à ta vie. Si ton jour était arrêté pour le X de X mois, l'année Y, tu ne pourrais pas, malgré tes efforts, rajouter une seconde, rajouter une minute, rajouter un jour. Le seul qui peut maintenir ta vie en vie, c'est Dieu. Il est donc le seul qui te préserve. Il ne veut même pas partager ce boulot-là avec toi. Mais voilà pourquoi ça prend de notre part d'être toujours dans cette condition où Dieu est effectivement le roi et le seigneur de notre vie. Il ne peut préserver une vie que si cette vie lui est remise à 100%. Il ne peut préserver ton histoire que si ton histoire, tu la lui remets pour qu'il s'en occupe à 100% parce qu'il ne partage pas l'exclusivité de sa garde. Il n'est pas dans les histoires de garde partagée avec qui que ce soit, ni même avec toi. Soit tu lui appartiens, soit tu ne lui appartiens pas. Avec Dieu, c'est aussi radical que ça. On ne peut pas être en essai, voir si ça fonctionne bien, je reste, si ça fonctionne mal, je m'en vais. Il y a des gens qui se marient avec l'idée que ben, si ça ne fonctionne pas, on divorce et puis on part de chacun de notre côté puis on poursuit notre existence. Le plan de Dieu, c'est un plan d'unité, c'est un plan d'union ad vitam aeternam, pour la vie et pour l'éternité. Donc Dieu ne partagera pas sa garde avec qui que ce soit, pas même avec toi. L'attitude que moi je dois avoir en tant que faible créature, c'est de me tourner vers Dieu en disant « Seigneur, de toute manière, je sais que sans toi, je ne peux rien. Que sans toi, je ne suis rien. Si je peux aspirer à quelque chose, si je peux être quelque chose, si je peux faire quelque chose, ce n'est qu'en raison de ta grâce et strictement qu'en raison de ta grâce. » Pensez à toutes les habiletés que vous pouvez avoir, à tous les talents qui pourraient être les vôtres. Vous ne pouvez pas être assuré que demain matin, vous avez encore cette habileté-là. Certaines personnes se sont levées un matin en pleine forme et au soir venu, toutes les forces avaient disparu. Que ce soit par une défaillance physique, que ce soit par un accident, que ce soit par une situation neurologique ou autre, quelqu'un se levait un matin et était en pleine forme, en pleine capacité, et tout d'un coup, bang, ça l'a frappé, et toutes ses forces sont tombées. Notre force reste et demeure la force de Dieu. Notre puissance reste et demeure la puissance de Dieu. Et voilà une bonne transition vers l'autre terme qui est important, la deuxième partie de ce verset. On est dit, l'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. On va revenir sur ombre, mais on va d'abord s'arrêter sur la main droite. La main droite, c'est pas qu'on favorise d'écrire de la main droite versus la main gauche. Je me rappelle qu'à une époque, on m'a dit que quand on était gaucher, on nous tapait sur les doigts pour nous amener à être droitier. Donc, plusieurs gauchers ont appris à écrire de la main droite parce que la main gauche n'était pas noble pour le fait d'écrire. Donc, on valorisait les droitiers. J'aimerais juste faire remarquer, je ne suis pas gaucher, mais j'aimerais juste faire remarquer que la plupart des présidents américains ont été des gauchers. La majorité des présidents américains étaient des gauchers et non pas des droitiers. Donc, on peut bien réussir même si on est gaucher. Mais ça, c'est juste une petite aparté que je fais. Quand on parle de la main droite dans le texte biblique, on parle essentiellement de la puissance et de la force de quelqu'un. On considérait que comme il y a plus de droitiers que de gauchers, donc la main droite est foncièrement, habituellement plus forte que la gauche. Pour tous ceux qui sont droitiers, vous aurez remarqué que si vous avez un poids ou deux poids à soulever, en général, vous allez soulever le plus lourd de votre côté le plus fort, donc de la droite, et le plus faible va se charger de la charge la plus petite. Donc, quand on parlait de la main droite, quand on parlait du côté droit, dans les textes bibliques et dans la culture juive, on parlait essentiellement de la force et de la puissance. Quand on parle de la droite de Dieu, on parle de sa force et de sa puissance. Ici, on ne parle pas de la puissance de Dieu, on parle de la puissance de l'homme. Et il dit, c'est celui qui te garde, il est ton ombre à ta main droite. Il est l'ombre de ta puissance. Ça veut donc dire que oui, tu as une puissance et oui, tu as une force. Ça veut donc dire que oui, Dieu t'a créé avec des capacités, avec un pouvoir. Dieu t'a créé avec des habiletés. Dieu t'a créé avec une puissance qui a une certaine portée. Trop de gens pensent que je ne suis rien, je ne peux rien, je ne suis capable d'absolument rien. Foncièrement, Dieu a donné à chacun d'entre nous des habiletés pour exécuter le plan initial qu'il avait pour chacun d'entre nous. Lorsque nous apprenons quel était le plan de Dieu pour notre vie, lorsqu'on découvre quelle est sa vision, quel est son projet pour notre existence, on se rend compte très souvent que les qualités intrinsèques qui sont les nôtres, que les forces que nous avons dans notre personnalité sont habituellement appropriées à la fonction qu'il nous donne ou vers laquelle il nous a appelés. C'est très rare que l'appel de Dieu aille en désaccord avec les dons personnels que nous avons. Très souvent, les dons vont avec l'appel. Dieu ne se repent jamais de son appel. Dieu ne se repent jamais de ses dons. Lorsqu'il voit une de ses créatures naître, il sait quel est le plan qu'il a pour cette vie et comment il voudrait utiliser cette vie. Et dans cette vie, il fait le don inné, il fait l'ajout inné de talent, d'aptitude, d'habileté pour parfaire le plan qu'il avait pour cette existence. Donc Dieu t'a donné un certain pouvoir, Dieu t'a donné une certaine puissance, Dieu t'a donné des forces et des habiletés, à savoir maintenant, est-ce que tu les utilises pour Dieu, ou tu les utilises pour toi, ou tu les utilises pour une futilité. Je dis parfois à la blague que même la meilleure chanteuse du monde, peu importe le nom que vous voulez mettre là-dessus, les Québécois en ont une qui est très très connue mondialement, même elle avec ses dons, et vous savez de qui je parle, je ne suis pas un grand fan, mais vous savez de qui je parle, même elle avec cette voix sublime que les gens acclament, cette voix-là a été donnée à cette dame et elle peut chanter à la fois pour Dieu et à la fois pour le diable. Elle peut utiliser ces dons-là selon ses décisions pour la gloire de Dieu ou pour sa propre gloire, pour sa propre vanité ou pour la vanité du diable. Mais c'est elle qui décide l'utilisation du don intrinsèque. Si quelqu'un a des habiletés de leadership, ce leadership peut conduire vers les voies de Dieu, comme ce leadership peut conduire vers la déchéance. Donc les dons que Dieu a placés en toi, à quoi vont-ils servir? À qui vont-ils servir? À quel royaume vont-ils servir? C'est une question que tu dois te poser et une décision que tu dois prendre aujourd'hui. Revenons maintenant après la main droite, revenons à l'ombre. Il est l'ombre à ta main droite. Trois choses que veut dire l'ombre. Premièrement, ça veut dire que cette ombre-là est inséparable de la main droite. On s'entend. Mon corps, même ici, vous ne le voyez probablement pas, mais mon corps produit de l'ombre. Il y a une lumière quelque part qui fait que derrière moi ou sur les côtés ou à mes pieds, il y a une ombre. Et cette ombre-là est constamment attachée à mon corps. Il ne peut pas y avoir d'ombre qui n'est pas attachée à notre corps. Donc la chose qui est importante de savoir, c'est que ta force, ta puissance doit être inséparable de Dieu. Il nous dit qu'il est notre ombre à notre main droite. Ça veut dire qu'il est l'ombre de notre main droite. Nous ne devons pas nous séparer de Dieu. Est-ce que c'est l'ombre qui est attachée au corps ou est-ce que c'est le corps qui est attaché à l'ombre? D'une vision humaine, on dirait que l'ombre est attachée au corps. D'une vision spirituelle, il serait préférable que notre corps soit attaché à notre ombre puisque notre ombre est Dieu. Donc, il est l'ombre à notre force, il est l'ombre de notre force, il est l'ombre de notre puissance. Ça veut dire que moi, sans Dieu, je ne peux rien faire. Il ne doit pas y avoir cette distanciation. Je ne dois pas permettre qu'il y ait une séparation, même si minime, entre Dieu et moi, si minime dans le temps, si minime dans la distance, si minime dans la thématique, mon attachement à Dieu, mon désir d'être constamment en sa présence, lié intimement à lui, de cela va découler la force et le talent et la puissance qui va être déversée en moi. Donc ma force et ma puissance sont inséparables de Dieu. Première notion sur l'ombre. Deuxième notion sur l'ombre, l'ombre veut aussi dire la couverture. On parlait d'une ombre qui venait couvrir le peuple. On parlait d'une ombre qui venait couvrir le tabernacle, d'un nuage qui venait couvrir le tabernacle lorsque la puissance de Dieu descendait. Lorsque Moïse est monté sur la montagne et que la gloire de Dieu a éclaté, on a dit qu'une ombre, qu'un nuage est venu se placer sur la montagne. Donc, il est notre couverture. Et quand on parle de couverture, on parle de supervision. Il est la supervision de ma force et de ma puissance. Il supervise comment j'utilise ma force et ma puissance. Lorsque je confie ma vie à Dieu, je lui confie aussi les dons intrinsèques qu'il m'a donnés. Je lui confie les habiletés qu'il m'a données. Je lui confie les faiblesses et les forces que j'ai. Je lui confie l'ensemble de ce qui fait de moi qui je suis. Et ce faisant, il l'utilise, il lui offre la couverture pour exister dans sa plénitude. Je ne serai le plein format de Florent qu'en restant sous la couverture de Dieu. Je ne serai la version optimale de Florent que Dieu avait pour moi que si je reste sous la couverture même de Dieu, en m'aventurant à l'extérieur de la volonté de Dieu, en m'aventurant à l'extérieur de la couverture, de la supervision ou de l'autorité de Dieu, je prends les choses en main et je me prive du sceau d'approbation, je me prive de la protection, je me prive de la fortification, de la multiplication de ces dons, de ces talents qu'il a placés en moi. Donc la seule façon que tu sois la meilleure version de toi-même, c'est en t'assurant d'être sous la couverture de l'Esprit-Saint, sous la couverture de Dieu. Or, Dieu, il ne peut pas y avoir la meilleure version de ta personne. Dernier point ce matin concernant l'ombre. Donc, on a vu que l'ombre était inséparable, que l'ombre était cette couverture que Dieu nous offrait, qui parle de supervision et de protection. Mais de surcroît à cela, quand on parlait d'une ombre dans l'Ancien Testament, on parlait aussi d'une transition dans le vécu d'une personne. Alors, si on prend cette notion de transition, il est cette transition dans ta force et dans ta puissance. Ça veut dire que les dons que Dieu t'a donnés ne sont pas stagnants. Ils vont eux aussi de gloire en gloire lorsqu'ils sont utilisés effectivement pour le propos de Dieu. Ils vont eux aussi de progrès en progrès lorsqu'ils sont travaillés selon la directive et la direction aussi de Dieu. Donc il désire que tes dons, lorsque tu commences à opérer, ne soient pas stagnants et figé dans le temps, mais il veut que tu les développes, j'espère. J'espère que je suis aujourd'hui un peu meilleur prédicateur que je ne l'étais quand j'ai commencé à prêcher. Bon, la première fois que j'ai prêché, on va dire que c'était hors temps, là. Je devais avoir 8 ans ou 9 ans. C'était dans le temps où on faisait des dévotions personnelles, des dévotions familiales avec ma sœur et mes parents. Donc, je vous ai déjà raconté la première prédication que j'ai faite à cette époque. Mais disons qu'on va un peu plus loin. La première prédication que j'ai faite officiellement à Narbonne, quand mon père a voyagé et que je devais le remplacer, ou ici à Montréal, lorsque on a commencé à me demander d'apporter la parole dans le groupe des jeunes et après ça le dimanche matin à l'occasion ou le mercredi soir pour l'étude biblique. Mais j'espère qu'aujourd'hui, je prêche un peu mieux. J'espère qu'aujourd'hui, j'amène le message un peu mieux. J'espère que Dieu, effectivement, a opéré une transition dans le temps avec les dons et les talents qu'il avait établis en moi. J'espère aujourd'hui que je suis un meilleur pasteur que je ne l'étais quand j'ai débuté en 98. Lorsque j'ai débuté officiellement à l'église en tant que pasteur, j'espère qu'aujourd'hui je suis un meilleur pasteur que cela. La notion pour toi et pour moi, c'est de savoir que lorsque je débute dans l'exercice de mon travail pour Dieu, que je n'ai pas la tête si enflée que je pense que je suis parvenu au point ultime des dons et des talents que Dieu veut utiliser et que Dieu veut placer en moi. Je dois rester avec cette notion que je suis dans un processus constant, perpétuel de progression. La Bible nous dit d'aller de gloire en gloire et de progrès en progrès. Le progrès veut donc dire qu'aujourd'hui, je suis moins bien que ce que je devrais être demain. Et que demain, je suis moins bien que ce que je devrais être le jour d'après. Donc, ça veut dire que si tu regardes ton état le jour où tu es venu à Jésus, et si tu regardes ton état aujourd'hui, tu devrais avoir progressé. Assurément, si on regarde la chose sur quelques mois, sur quelques années, sur quelques décennies, j'espère que ta situation devant Dieu s'est améliorée. Mais même d'une journée à l'autre, ta situation devrait continuer à s'améliorer. Dieu n'a pas dit, mais je vous permets d'avoir trois journées où vous défaillez, en autant que la quatrième, vous rattraperiez le temps et vous dépassiez l'état où vous étiez quatre jours plus tôt. Et Dieu n'a pas cette idée-là que j'avance pour reculer, pour mieux avancer, pour mieux reculer, pour mieux avancer, pour mieux reculer. Dieu a cette pensée pour toi et pour moi de progrès constant, à savoir aujourd'hui, je serai meilleur qu'hier. Et demain, je serai meilleur que je ne suis aujourd'hui. C'est le défi qu'il y a pour toi, et c'est le même défi qu'il y a pour moi. C'est le défi qui est présenté à l'ensemble des enfants de Dieu. Si effectivement, il est l'ombre, il est cette transition à notre force et à notre puissance. Donc, sachons aller de gloire en gloire. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu deux notions. On a vu d'abord la notion comme quoi Dieu veille sur nous, Dieu nous garde, et cette garde qu'il opère sur nous, elle est exclusive à lui, il ne la partage avec personne, pas même avec toi, et il est le seul qui peut te garder. Aucun autre, ni même toi, peut te garder. La deuxième chose, c'est que Dieu nous a donné de la puissance, des dons, des talents, de la force pour accomplir des choses, mais cela est progressif. Ce que j'ai eu quand je suis né, aujourd'hui, je devrais l'avoir décuplé, l'avoir multiplié, un peu comme les talents qu'on a vus dans la parabole des serviteurs à qui le maître donne une certaine quantité de pièces d'argent et qui doivent le multiplier. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu place entre tes mains? Est-ce que tu le multiplies ou ça reste stagnant? Et là, je ne parle pas d'une reconnaissance publique, je parle simplement, est-ce que je suis effectivement en train de cheminer dans une intimité toujours plus proche, toujours plus grande avec le Seigneur? Est-ce que je peux dire qu'effectivement aujourd'hui je connais un peu plus Dieu que je ne le connaissais hier? Est-ce que je peux dire qu'aujourd'hui je suis un peu plus près de Dieu que je ne l'étais hier? Est-ce que je peux dire qu'aujourd'hui je suis un peu plus sensible à sa présence que je ne l'étais hier? Alors tout cela, c'était ce qu'on avait pour ce matin. Alors permettez-moi de prier pour vous, pour moi, et après ça on donne les quelques annonces pour la journée. Alors merci Seigneur de ce qu'effectivement tu nous gardes, merci Seigneur de ce qu'effectivement tu nous préserves. C'est toi qui renouvelles ton souffle de vie en chacun d'entre nous encore ce matin, tu l'as fait. Et je te bénis Seigneur pour cette journée qui débute pour ma sœur et pour mon frère, une journée Seigneur où tu leur permets à lui et à elle d'utiliser les talents, les dons que tu as placés dans leur vie respective, pour faire avancer ton œuvre, pour être utile dans ton royaume. Je prie, Seigneur, qu'effectivement ce soit une journée de croissance, une journée de progression, qu'ils en aient le désir, qu'ils aient l'ardeur à la tâche quant à s'approcher de toi, quant à te connaître davantage et quant à te faire connaître davantage. Que tu sois, Seigneur, qu'ils aient cette notion plutôt comme quoi leur force et leur puissance est inséparable de la tienne, parce que si elle est coupée, elle perd totalement sa raison d'être. Ta parole nous dit, Seigneur, que nous sommes les sarments et que détachés du cep, nous mourons. Alors, Seigneur, tout ce que nous pouvons produire, ce n'est qu'en raison du cep auquel nous sommes attachés. Nous prions, Seigneur, que tu fasses couler en nous ta grâce, ton onction, ton esprit, afin, Seigneur, de porter un fruit abondant pour toi. Merci, Seigneur, de ce que tu nous couvres, tu nous protèges, tu nous préserves. Merci, Seigneur, de ce que tu nous assures des transitions dans notre vie. Parfois, Seigneur, celles-ci viennent nous surprendre, mais c'est toi qui es au contrôle de notre existence. Nous suivons ta direction, nous suivons ton pas et nous voulons aller parfaitement et totalement dans ta volonté. Alors j'appelle la bénédiction sur ma sœur, la bénédiction sur mon frère aujourd'hui. Parle-leur, fais sentir ta présence dans leur vie et qu'ils soient des instruments puissants et forts entre tes mains. Nous t'avons prié en ton nom Jésus. Amen. Alors, simplement saluer quelques personnes. Je remonte ici avec les dernières personnes qu'on a saluées. Bonjour à la sœur Lise. Bonjour à Ramon. Bonjour à Farley, à Marie-André. Bonjour à la sœur Nancy. Bonjour à Maggie. Bonjour à Suze. Et c'est bonjour à Suzanne Lefebvre. Que Dieu vous bénisse. Je ne vous connais pas, mais que Dieu vous bénisse. Bonjour au pasteur David. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'était tout pour ce matin. On vous rappelle la Sainte Cène un samedi soir à 19h. Donc, préparez votre pain, votre coupe pour pouvoir célébrer ce moment important avec nous. Ça sera à partir de 19h samedi soir. Ça sera aussi le temps de prier pour contrer les œuvres des ténèbres dans cette journée bien particulière de l'Halloween. Donc, soyons là au poste. Sinon, on se retrouve demain matin, 8h30, pour notre prochaine bénédiction matinale. D'ici là, passez une bonne journée, passez du temps avec le Seigneur aujourd'hui et voyez-le vous utiliser pour sa gloire. Mettez vos dons, vos talents au service du roi et restez sous la couverture de son esprit. Alors, bonne journée à tous, que Dieu vous bénisse et puis à demain tout le monde. Bye bye!